Le mode d'action politique esquissé ici exige que chaque choix soit précédé par la contemplation simultanée de plusieurs considérations d'espèces très différentes. Cela implique un degré d'attention élevé, à peu près du même ordre que celui exigé par le travail créateur dans l'art et la science. Mais pourquoi la politique, qui décide du destin des peuples et a pour objet la justice, exigerait-elle une attention moindre que l'art et la science, qui ont pour objet le beau et le vrai? La politique a une affinité très étroite avec l'art, avec des arts tels que la poésie, la musique, l'architecture. La composition simultanée sur plusieurs plans est la loi de la création artistique et en fait la difficulté. Un poète, dans l'arrangement des mots et le choix de chaque mot, doit tenir compte simultanément de 5 ou 6 plans de composition au moins. Les règles de la versification, nombre de syllabes et rimes, dans la forme de poème qu'il a adoptée, la coordination grammaticale des mots, leur coordination logique à l'égard du développement de la pensée, la suite purement musicale des sons contenus dans les syllabes, le rythme, pour ainsi dire matériel, constitué par les coupes, les arrêts, la durée de chaque syllabe et de chaque groupe de syllabes, l'atmosphère que mettent autour de chaque mot les possibilités de suggestion qu'il enferme, et le passage d'une atmosphère à une autre, à mesure que les mots se succèdent. Le rythme psychologique constitué par la durée des mots correspondant à telle atmosphère ou à tel mouvement de la pensée. Les effets de la répétition et de la nouveauté. Sans doute d'autres choses encore. Et une intuition unique de beauté donnant une unité à tout cela. L'inspiration est une tension des facultés de l'âme qui rend possible le degré d'attention indispensable à la composition sur plans multiples. Celui qui n'est pas capable d'une telle attention en recevra un jour la capacité s'il s'obstine avec humilité, persévérance et patience, et s'il est poussé par un désir inaltérable et violent. S'il n'est pas la proie d'un tel désir, il n'est pas indispensable qu'il fasse des vers. La politique, elle aussi, est un art gouverné par la composition sur plans multiples. Quiconque se trouve avoir des responsabilités politiques, s'il a en lui la faim et la soif de la justice, doit désirer recevoir cette faculté de composition sur plans multiples, et par suite, doit infailliblement la recevoir avec le temps. Seulement, aujourd'hui, le temps presse. Les besoins sont urgents. La méthode d'action politique esquissée ici dépasse les possibilités de l'intelligence humaine, du moins autant que ces possibilités sont connues. Mais c'est là précisément ce qui en fait le prix. Il ne faut pas se demander si on est ou non capable de l'appliquer. La réponse serait toujours non. Il faut la concevoir d'une manière parfaitement claire, la contempler longtemps et souvent, l'enfoncer pour toujours au lieu de l'âme où les pensées prennent leurs racines, et qu'elle soit présente à toutes les décisions. Il y a peut-être alors une probabilité pour que les décisions, bien qu'imparfaites, soient bonnes. Celui qui compose des vers, avec le désir d'en réussir d'aussi beaux que ceux de Racine, ne fera jamais un beau vers, encore bien moins s'il n'a même pas cette espérance. Pour produire des vers où réside quelque beauté, il faut avoir désiré égaler par l'arrangement des mots la beauté pure et divine dont Platon dit qu'elle habite de l'autre côté du ciel. Une des vérités fondamentales du christianisme, c'est qu'un progrès vers une moindre imperfection n'est pas produit par le désir d'une moindre imperfection. Seul le désir de la perfection a la vertu de détruire dans l'âme une partie du mal qui la souille. De là le commandement du Christ : soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Autant le langage humain est loin de la beauté divine, autant les facultés sensibles et intellectuelles des hommes sont loin de la vérité, autant les nécessités de la vie sociale sont loin de la justice. Par suite, il n'est pas possible que la politique n'ait pas besoin d'efforts, d'inventions créatrices, autant que l'art et la science. C'est pourquoi la presque totalité des opinions politiques et des discussions où elles s'opposent est aussi étrangère à la politique que le choc des opinions esthétiques dans les brasseries de Montparnasse est étrangère à l'art. L'homme politique, dans un cas, comme l'artiste, dans l'autre, ne peuvent trouver là qu'un certain stimulant, qui doit être pris à très faible dose. On ne regarde presque jamais la politique comme un art d'espèce tellement élevé. Mais c'est qu'on est accoutumé depuis des siècles à la regarder seulement, ou en tout cas principalement, comme la technique de l'acquisition et de la conservation du pouvoir. Or, le pouvoir n'est pas une fin. Par nature, par essence, par définition, il constitue exclusivement un moyen. Il est à la politique ce qu'est un piano à la composition musicale. Un compositeur qui a besoin d'un piano pour l'invention des mélodies se trouvera embarrassé s'il est dans un village où il n'y en a pas. Mais si on lui en procure un, il s'agit alors qu'il compose. Malheureux que nous sommes, nous avions confondu la fabrication d'un piano avec la composition d'une sonate. Une méthode d'éducation n'est pas grand-chose si elle n'a pas pour inspiration la conception d'une certaine perfection humaine. Quand il s'agit de l'éducation d'un peuple, cette conception doit être celle d'une civilisation. Il ne faut pas la chercher dans le passé qui ne contient que de l'imparfait. Bien moins encore dans nos rêves d'avenir qui sont par nécessité aussi médiocres que nous-mêmes et par suite de très loin inférieurs au passé. Il faut chercher l'inspiration d'une telle éducation, comme la méthode elle-même, parmi les vérités éternellement inscrites dans la nature des choses. Voici, à ce sujet, quelques indications. Quatre obstacles, surtout, nous séparent d'une forme de civilisation susceptible de valoir quelque chose. Notre conception fausse de la grandeur. La dégradation du sentiment de la justice. Notre idolâtrie de l'argent. Et l'absence en nous d'inspiration religieuse. On peut s'exprimer à la première personne du pluriel sans aucune hésitation, car il est douteux qu'à l'instant présent, un seul être humain sur la surface du globe terrestre, échappe à cette quadruple tare, et plus douteuse encore, qu'il y en ait un seul dans la race blanche. Mais s'il y en a quelques-uns, comme il faut malgré tout l'espérer, ils sont cachés. Notre conception de la grandeur est la tare la plus grave et celle dont nous avons le moins conscience comme d'une tare. Du moins, comme d'une tare en nous. Chez nos ennemis, elle nous choque. Mais, malgré l'avertissement contenu dans la parole du Christ sur la paille et la poutre, nous ne songeons pas à la reconnaître comme nôtre. Notre conception de la grandeur est celle même qui a inspiré la vie tout entière d'Hitler. Quand nous la dénonçons sans la moindre trace de retour sur nous-mêmes, les anges doivent pleurer ou rire, s'il y a des anges qui s'intéressent à notre propagande. Il paraît qu'aussitôt la Tripolitaine occupée, on y a arrêté l'enseignement fasciste de l'histoire. C'est fort bien. Mais il serait intéressant de savoir en quoi, pour l'Antiquité, l'enseignement fasciste de l'histoire différait de celui de la République française. La différence devait être faible, car la grande autorité de la France républicaine en matière d'histoire ancienne, M. Carcopino, prononçait à Rome des conférences sur la Rome antique et la Gaule qui étaient tout à fait propres à être prononcées en ce lieu et y étaient très bien accueillies. Aujourd'hui, les Français de Londres ont quelques reproches à faire à M. Carcopino, mais ce n'est pas sur ses conceptions historiques. Un autre historien de la Sorbonne disait en janvier 1940, à quelqu'un qui avait écrit quelque chose d'assez dur sur les Romains, « Si l'Italie se met contre nous, vous aurez eu raison. » Comme critère de jugement historique, c'est insuffisant. Les vaincus bénéficient souvent d'une sentimentalité, parfois même injuste, mais seulement les vaincus provisoires. Le malheur est un immense prestige quand celui de la force s'y joint. Le malheur des faibles n'est même pas un objet d'attention, si toutefois il n'est pas un objet de répulsion. Quand les chrétiens eurent acquis la conviction solide que le Christ, quoique ayant été crucifié, était ensuite ressuscité et devait prochainement revenir dans la gloire pour récompenser les siens et punir tous les autres, aucun supplice ne les effraya plus. Mais auparavant, quand le Christ était seulement un être absolument pur, dès que le malheur le toucha, il fut abandonné. Ceux qui l'aimaient le plus ne purent trouver dans leur cœur la force de courir des risques pour lui. Les supplices sont au-dessus du courage quand il n'y a pas, pour les affronter, le stimulant d'une revanche. La revanche n'a pas besoin d'être personnelle. Un jésuite martyrisé en Chine est soutenu par la grandeur temporelle de l'Église, bien qu'il ne puisse en espérer lui-même aucun secours. Il n'y a pas ici-bas d'autre force que la force. Cela pourrait servir d'axiome. Quant à la force qui n'est pas d'ici-bas, le contact avec elle ne peut pas être acheté à un prix moindre que le passage à travers une sorte de mort. Il n'y a pas ici-bas d'autre force que la force, et c'est elle qui communique de la force au sentiment, y compris la compassion. On pourrait en citer 100 exemples. Pourquoi les pacifistes d'après 1918 se sont-ils tellement plus attendris sur l'Allemagne que sur l'Autriche? Pourquoi la nécessité des congés payés a-t-elle paru à tant de gens un axiome d'une évidence géométrique en 1936 et non en 1935? Pourquoi y a-t-il tellement plus de gens pour s'intéresser aux ouvriers d'usine qu'aux ouvriers agricoles? Et ainsi de suite. De même dans l'histoire. On admire la résistance héroïque des vaincus quand la suite des temps apporte une certaine revanche. Non autrement. On n'a pas de compassion pour les choses totalement détruites. Qui en accorde à Jéricho, à Gaza, Tyr, Sidon, à Carthage, à Numance, à la Sicile grecque, au Pérou précolombien? Mais, objectera-t-on, comment pleurer la disparition de choses dont on ne sait pour ainsi dire rien? On ne sait rien d'elles parce qu'elles ont disparu. Ceux qui les ont détruites n'ont pas cru devoir se faire les conservateurs de leur culture. D'une manière générale, les erreurs les plus graves, celles qui faussent toute la pensée, qui perdent l'âme, qui la mettent hors du vrai et du bien, sont indiscernables. Car elles ont pour cause le fait que certaines choses échappent à l'attention. Si elles échappent à l'attention, comment y ferait-on attention, quelque effort que l'on fasse? C'est pourquoi, par essence, la vérité est un bien surnaturel. Il en est ainsi pour l'histoire. Les vaincus y échappent à l'attention. Elle est le siège d'un processus darwinien plus impitoyable encore que celui qui gouverne la vie animale et végétale. Les vaincus disparaissent. Ils sont néants. Les Romains ont, dit-on, civilisé la Gaule. Elle n'avait pas d'art avant l'art gallo-romain, pas de pensée avant que les Gaulois n'aient eu le privilège de lire les écrits philosophiques de Cicéron, et ainsi de suite. Nous ne savons pour ainsi dire rien sur la Gaule. Mais les indications presque nulles que nous possédons prouvent assez que tout cela est du mensonge. L'art gaulois ne risque pas d'être l'objet de mémoire de la part de nos archéologues, parce que la matière en était le bois. Mais la ville de Bourges était une si pure merveille de beauté que les Gaulois perdirent leur dernière campagne faute d'avoir le courage de la détruire eux-mêmes. Bien entendu, César la détruisit et massacra du même coup la totalité des 40 000 êtres humains qui s'y trouvaient. On sait par César que les études des druides duraient 20 ans et consistaient à apprendre par cœur des poèmes concernant la divinité et l'univers. La poésie gauloise contenait donc en tout cas une quantité de poèmes religieux et métaphysiques telle qu'elle constituait la matière de 20 ans d'études. À côté de l'incroyable richesse suggérée par cette seule indication, la poésie latine, malgré Lucrèce, est quelque chose de misérable. Diogène Laërce dit qu'une tradition attribuait à la sagesse grecque plusieurs origines étrangères, parmi lesquelles les druides de Gaule. D'autres textes indiquent que la pensée des druides s'apparentait à celle des pythagoriciens. Ainsi, il y avait dans ce peuple une mer de poésie sacrée dont les œuvres de Platon peuvent seules nous permettre de nous représenter l'inspiration. Tout cela disparut quand les Romains exterminèrent, pour crime de patriotisme, la totalité des druides. Il est vrai que les Romains ont mis fin aux sacrifices humains pratiqués, disait-il, en Gaule. Nous ne savons rien sur ce qu'ils étaient, sur la manière et l'esprit dans lesquels ils étaient pratiqués. Si c'était un mode d'exécution des criminels ou une mise à mort d'innocents. Et en ce dernier cas, si c'était avec consentement ou non. Le témoignage des Romains est très vague et ne saurait être admis sans méfiance. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que les Romains ont institué eux-mêmes en Gaule et partout la mise à mort de milliers d'innocents, non pas pour honorer les dieux, mais pour amuser les foules. C'était l'institution romaine par excellence, celle qu'ils transportaient partout. Eux que nous osons regarder comme des civilisateurs. Néanmoins, si on disait publiquement que la Gaule d'avant la conquête était beaucoup plus civilisée que Rome, cela sonnerait comme une absurdité. C'est là simplement un exemple caractéristique. Bien qu'à la Gaule ait succédé sur le même sol une nation qui est la nôtre, bien que le patriotisme ait chez nous, comme ailleurs, une forte tendance à s'étendre dans le passé, bien que le peu de documents conservés constitue un témoignage irrécusable, la défaite des armes gauloises est un obstacle insurmontable à ce que nous reconnaissions la haute qualité spirituelle de cette civilisation détruite. Encore y a-t-il eu en sa faveur des tentatives comme celle de Camille Julian. Mais le territoire de Troie, n'ayant plus jamais été le siège d'une nation, qui a pris la peine de discerner la vérité qui éclate de la manière la plus évidente dans l'Iliade, dans Hérodote, dans l'Agamemnon d'Eschyle, à savoir que Troie était d'un niveau de civilisation, de culture, de spiritualité très supérieur à ceux qui l'ont attaqué injustement et détruite, et que sa disparition a été un désastre dans l'histoire de l'humanité. Avant juin 1940, on pouvait lire dans la presse française, à titre d'encouragement patriotique, des articles comparant le conflit franco-allemand à la guerre de Troie. On y expliquait que cette guerre était déjà une lutte de la civilisation contre la barbarie, les barbares étant les Troyens. Or, il n'y a pas à cette erreur une ombre de motif, sinon la défaite de Troie. Si on ne peut s'empêcher de tomber dans cette erreur au sujet des Grecs, qui ont été hantés par le remords du crime commis et ont témoigné eux-mêmes en faveur de leurs victimes, combien davantage, au sujet des autres nations, dont la pratique invariable est de calomnier ceux qu'elles ont tués. L'histoire est fondée sur les documents. Un historien s'interdit par profession les hypothèses qui ne reposent sur rien. En apparence, c'est très raisonnable, mais en réalité, il s'en faut de beaucoup. Car, comme il y a des trous dans les documents, l'équilibre de la pensée exige que des hypothèses sans fondement soient présentes à l'esprit, à condition que ce soit à ce titre, et qu'autour de chaque point, il y en ait plusieurs. À plus forte raison faut-il dans les documents lire entre les lignes, se transporter tout entier, avec un oubli total de soi, dans les événements évoqués. Attarder très longtemps l'attention sur les petites choses significatives et en discerner toute la signification. mais le respect du document et l'esprit professionnel de l'historien ne disposent pas la pensée à ce genre d'exercice. L'esprit dit « historique » ne perce pas le papier pour trouver de la chair et du sang. Il consiste en une subordination de la pensée au document. Or, par la nature des choses, les documents émanent des puissants, des vainqueurs. Ainsi, l'histoire n'est pas autre chose qu'une compilation des dépositions faites par les assassins relativement à leurs victimes et à eux-mêmes. Ce qu'on nomme le tribunal de l'histoire, informé de la sorte, ne saurait juger d'une manière autre que celui des animaux malades de la peste.